Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Koukhi. Bonjour Marie-Ange.
Valérie, bonjour. J'ai entendu le coucou ce matin.
Alors, c'est signe, Zabel,
oui,
Ujocho.
Gantulugu, la marina, siré, allégria.
La marina,
c'est un proverbe.
Joli. Oui. Et c'est dit, j'ai dit, quand elle ouge Ujocho qui canta, des signes di galdo, di no.
Di galdo. Le printemps.
C'abiginemu.
Si.
Ou eran, ou bon, continue. Et puis, c'est un qui fait j'ai des biens plus. Car, bon, enfin, là, on s'égare un peu dans nos, dans notre, nos provisions climatiques. Marie-Ange, allez, on revient à notre chronique. Vous recommandez de vivre pour soi, parce qu'on revient un petit peu au trouble de la personnalité narcissique. Alors, ce qu'il faut, c'est pas de l'égoïsme. Il faut savoir se protéger, vivre pour soi, suite à une rencontre avec un PN ou une PN.
Oui, ou une, bien sûr, après une telle souffrance. Alors, vous êtes sorti de l'enfer, vous avez beaucoup souffert. Vous êtes certainement suivi en thérapie, vous sortez enfin la tête de l'eau et quand vous avez réalisé un jour que votre vie ne vous appartenait plus et que vous avez perdu beaucoup de temps ainsi que votre identité, il est temps de vivre pour soi-même et de poser des actes personnels.
Guérir des traumatismes et des blessures, pouvoir se reconstruire, se créer, Marie-Ange, une vie digne d'être vécue, c'est favoriser la fameuse résilience.
La résilience, rebondir, nous allons aborder le thème complet de la résilience chez l'enfant, chez l'adulte, nous allons donner aussi des exemples ainsi que des lectures et des films.
Alors vivre pour soi, alors quand on entend vivre pour soi, de suite, ça fait peur. Certains disent que c'est égoïste, Marie-Ange Koukhi.
Mais oui, certains disent, après, il faut, je dois, par obligation, il est temps de rééquilibrer. Et si nos responsabilités sont extrêmes et qui nous plombent, nous ne vivons pas pour nous, car nous avons toutes et tous des excuses et des prétextes pour éviter de s'occuper de soi. Et c'est vrai, c'est presque avec timidité parfois que les gens consultent en se disant « Je fais passer toujours les gens avant moi, je refuse d'être égoïste. » Et j'explique, ce sont simplement des actes personnels pour enfin vivre pour soi.
Vivre, c'est dire parfois « ça suffit, j'existe aussi ».
Oui, ça suffit de mettre de côté sa vie, c'est l'heure de vivre le bonheur et de vivre pour vivre.
Alors c'est savoir dire non aux autres par exemple?
Oui, parce que les personnes prennent conscience qu'elles passent plus de temps dans les obligations inutiles, parfois les relations parasites. On offre notre oreille, notre temps à des personnes qui en ont vraiment besoin, à ceux qui ont envie de partager des moments de joie et de rire. On peut tendre la main, accompagner, mais fuyez les relations qui vous plombent inutilement. Laissez aux autres la responsabilité de leur choix. Ils apprendront à gérer leurs propres plaintes perpétuelles. Il faut se dire aussi que cela leur appartient, en vous permettant progressivement d'avoir une écoute, mais de faire aussi un choix quand même.
Alors vivre un peu plus pour soi, c'est pas toujours facile, Marie-Ange. Vous savez, on est dans des sociétés un peu culpabilisantes, méditerranéennes, qui nous culpabilisent un petit peu.
Oui, c'est vrai. C'est aussi revendiquer la vie, tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement.
C'est joli ça, revendiquer la vie tout simplement. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons et je vous retrouve demain à la même heure, c'est ça ? À demain, vous pouvez bien sûr podcaster notre chronique Belle Anima et la réécouter à volonté. On va continuer d'ailleurs demain à évoquer le thème de la résilience en votre compagnie, Marie-Ange. À demain.
À demain.
Et nous retrouvons sur RCFM notre spécialiste comportementaliste, Marie-Ange, ça rime, hein ?
Oui,
Marie-Ange Koukhi.
Valérie.
Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Valérie. Alors thérapie comportementale en hypnose ericksonienne, en PNL, ainsi que relaxation psychosomatique, sophrologie, et ainsi que l'EMDR, IMO, justement pour dépasser certains traumatismes.
Voilà, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi
faire. Chez Ligue
ben.
Alors Marie-Ange, depuis le début de ces émissions, vous parlez d'écoute active et de bienveillance.
Oui, bien sûr, l'écoute active. Mais parfois, sachez que cela ne rend rien service de suivre le délire de l'autre. On peut m'y écouter des bonnes choses, plutôt leur apprendre à penser plutôt en positif et non toujours dans la plainte perpétuelle. Entraînez-vous avec certaines copines ou amis qui se plaignent systématiquement. Écoutez, bien sûr, mais rebondissez en leur proposant comment tu pourrais faire cela autrement. Allez dans le comment, comment s'améliorer, comment mieux écouter et surtout, comment éviter la plainte perpétuelle.
On doit avoir peur d'être jugé aussi. L'histoire du jugement, c'est un peu stressant.
Oui, au début, on peut recevoir des critiques et peu à peu, l'habitude de se plaindre chez l'autre va diminuer. en invitant, comme je disais précédemment, les autres à penser autrement, sans être traité d'égoïste, poser des actes personnels pour soi, apprendre aux personnes à écouter et à parler en positif aussi.
Alors Marie-Ange Coux qui parlait en positif, apprendre, fuir aussi les relations toxiques, s'offrir le mieux pour soi tout en se remettant en question, si je vous suis bien, et en devenant peu à peu ce qu'on appelle un humaniste éclairé.
Écoutez, pourquoi pas en vous remettant en question progressivement, pourquoi pas devenir un humaniste humble, hein, éclairé. Et être humaniste, c'est avant tout être sincère, c'est avoir compris qu'œuvrer au progrès de l'humanité passe d'abord par sa propre amélioration, par la maîtrise de ses passions, de ses émotions, de ses comportements, de ses actes. C'est être capable de se critiquer soi-même tout en ayant
l'autocritique,
la bienveillance. Oui. Et aussi, c'est arriver à faire, comment dire, fi de sa vanité dès que l'on constate que l'on fait fausse route, c'est-à-dire se remettre en question, fuir les relations toxiques et s'offrir du mieux-être pour soi.
Un humaniste, il cultive donc la tolérance, il respecte l'homme et le droit de l'homme aussi.
Oui, c'est donner à l'autre le droit de penser autre chose que ce que l'on aimerait qu'il pense. Et ça, c'est pas facile. C'est donner à l'autre le droit d'exprimer autre chose que l'on voudrait en notre fort intérieur entendre. C'est donner à l'autre le droit de faire ce que l'on ne voudrait pas qu'il fasse. C'est réclamer à l'autre, de l'autre, les mêmes droits pour soi.
Tout un programme.
Alors, tout un programme.
Nous allons parler demain, la suite de cette chronique demain dans Belle Anima.
À demain, Valérie.
Vous pouvez bien entendu réécouter à volonté notre chronique. Vous la trouvez sur le site Belle Anima, en compagnie de Marie-Ange Coux, puisque nous abordons le thème de la résilience avec Marie-Ange, cette fois-ci plusieurs thèmes.
Hein. Plusieurs thèmes.
Plusieurs thèmes. Et puis, on vous retrouve demain, à demain.
C'est doué vol. C'est dit ou vol.
C'est dit ou vol, voilà.
Je fais des progrès, je prends des cours de corse, je vous assure. C'est une...
Bon, je vous attends bilingue parfaitement.
Parfaitement, non, mais mieux quand même, mieux.
Marie-Ange Coux, qui bonjour.
Bonjour Valérie.
On vous retrouve et nous allons conclure.
Oui,
comme
conclure.
Ce serait bien de conclure, de terminer avec ce sujet, d'en finir avec la perversion narcissique au sens propre, au sens figuré.
Pour enchaîner ensuite sur la résilience.
Ah oui, là on va se régaler. Hein.
Oui.
La résilience, on va, voilà, la reconstruction.
La reconstruction, rebondir.
Quelle est la spécificité de la personnalité narcissique?
Alors pour résumer, rappelez-vous, le trouble de la personnalité narcissique, la personne ne peut pas gérer ses conflits, doit les extérioriser en les transférant sur l'autre, en rendant l'autre coupable de ses défauts. Et la personne transfère inconsciemment ou non, en fonction des cas, de ses victimes, de son mal-être intérieur.
Donc là, on fait un petit rappel.
Oui.
Nous sommes sur le petit rappel de ce qu'est la personnalité narcissique, la fameuse personnalité narcissique. Il existe un profil type, vous en avez parlé, des victimes.
Les trop gentils, trop empathiques, les trop bienveillants, des personnes qui n'ont jamais appris à dire non, qui ont des grandes valeurs de respect, de loyauté, mais aussi des personnes qui sont trop sensibles à la critique.
Ah bon,
qui peuvent aussi s'auto-flageller, qui sont beaucoup d'inculpabilité, qui pardonnent trop, qui n'ont pas travaillé certaines blessures comme, sur eux, hein, comme l'exclusion, l'abandon, le rejet. Et c'est tout cela que le pervers va flairer et ferrer sa proie. Et la victime, elle a des faiblesses, car elle a des besoins inassouvis, des besoins non comblés. Il ou elle va s'en servir pour séduire sa proie, ferrer et dévaloriser. Et ensuite reséduire.
C'est ça, c'est le jeu, un jeu de dupe.
Oui.
Entre chaud-froid, on est gentil, on est méchant.
Un lavage de cerveau. Hein.
C'est ce qui rend
c'est
fou.
C'est de grandes, grandes souffrances.
Voilà, vraiment. C'est ce qui rend fou. Et ça peut aller très loin.
Il faut vraiment se faire aider, je vous assure.
Alors c'est difficile en fait, Marie-Ange, de détecter le trouble de la personnalité narcissique, puisque en fait, il y a un jeu, vous m'avez dit, un jeu de masques, de personnalité, de facettes.
Oui. Et il y en a dans tous les domaines de vie, hein, amoureux, amical, professionnel. Après, il y a des degrés, vous savez, il y a des traits de personnalité narcissique sans pour autant être des vrais troubles. Il y a des amateurs, il y a des petits joueurs, il y a des professionnels.
Il y a plusieurs niveaux.
Il y a ceux qui vont utiliser un conscient intellectuel souvent très élevé, très intelligents souvent.
C'est pire là.
Oui, pour détruire et manipuler. Et ce que je suggère vraiment, c'est de ne pas coller trop vite une étiquette de pervers narcissique aux personnes rencontrées. Il y a vraiment des degrés. C'est surtout des personnes qui ressentent le plaisir à faire souffrir l'autre. Donc, moi, ce que je suggère aussi, c'est vraiment, après ce mal-être, hein, c'est trouver un sens à l'expérience vécue avec un PN pour ensuite sortir de ce statut de victime.
Donc, vraiment. Ça peut être positif, ça, trouver un sens.
Ben oui.
Donc, ça veut dire que pour ceux, celles qui ont réussi à rebondir.
Oui, trouver un sens pour avancer, évoluer.
Faire du négatif, du positif.
Du positif.
C'est ça?
Et rebondir, oui.
Bon, enfin, il ne faut pas s'enfoncer. Il faut quand même
pouvoir
partir.
Vraiment, dès que c'est décelé, se faire aider, éviter de rester trop longtemps avec ce genre de personnage, homme ou femme.
Oui, commencer à réaliser, quoi.
Réaliser. Il faut avoir
le déclic.
Il y a la prise de conscience avant.
Là, vous voyez des gens qui ont des prises de conscience, c'est ça?
Tout à fait.
Et qui, alors, ça doit faire drôle, en fait, la prise de conscience.
Pour eux. Ça fait souffrir beaucoup, énormément.
Ah oui? Oui, parce que le masque est tombé.
Le masque est tombé.
Vous nous recommandez, Marie-Ange, un site?
Oui, un site que j'ai trouvé concernant le trouble. C'est un site en ligne qui aide, c'est une grande aide psychologique pour être accompagné et mettre en place des actions. C'est http://soutien-psy-en-ligne. Voilà, pervers narcissique, soutien-psy-en-ligne, pervers-narcissique.fr.
Voilà, les auditeurs.
De Geneviève Schmitt.
D'accord, donc si vous avez besoin d'un soutien en ligne, il faut aller vous faire aider. De toute façon, c'est le conseil peut-être que...
C'est le conseil,
pour
vraiment.
Pour conclure, que vous pourriez donner.
Ne pas rester dans cette posture de victime, entrer dans la posture du choix, de partir, de dire non. Rappelez-vous, s'il n'y a plus de victime, il n'y aura plus de bourreau.
Et puis bon, Marie-Ange, là, on a abordé pendant ces semaines ce sujet de façon légère, parce qu'on essaye de ne pas s'apesantir. Mais c'est quelque chose qui est quand même grave.
C'est grave.
Parce qu'on peut aller, on parle de suicide, on parle de
déprime,
on parle de
mal-être.
Voilà. Voir.
C'est une grande souffrance psychologique.
Voir, puisqu'on parle aussi des problèmes de la violence psychologique, de la violence physique aussi.
Oui.
La violence faite aux femmes. Donc, ou aux hommes, hein, aussi.
Ou aux hommes, oui, c'est bien sûr.
Donc, merci à vous, Marie-Ange Cook.
Merci, à bientôt.
Pour nous avoir éclairé.
La suite, la résilience.
Ça va être super.
Ça va être super.
Avec le père de la résilience, Boris
Cyrulnik. Qui écrit « C'est un refus de la résignation à la fatalité du malheur ».
Merci, vous pouvez podcaster cette chronique sur notre site Belle et Anima, la réécouter à volonté.
À demain,
à demain. Nous retrouvons Marie-Ange Coux qui on parle d'humanisme, on parle de respect de l'autre avec vous, Marie-Ange Coux qui... de démocratie aussi finalement.
Oui.
Hein. Alors c'est cet humanisme, c'est être convaincu aussi que l'effort va trouver sa récompense dans sa propre conscience, ne jamais se laisser abattre par l'adversité aussi.
Être prêt à recommencer après chaque défaite, alors nous dirons plus précisément après chaque expérience. Être capable de protéger son intégrité, pouvoir se construire, se reconstruire malgré l'adversité, se créer une vie digne d'être vécue et guérir enfin des traumatismes et des blessures.
Oui, puisqu'on parle des traumatismes aussi, la guérison. Oui. Guérir de traumatismes et de blessures, pouvoir se reconstruire, c'est la fameuse résilience.
Oui, la résilience, rebondir. Je vais vous évoquer aujourd'hui les trois piliers de la résilience chez l'enfant. Ensuite, nous développerons tout le thème de la résilience durant les prochaines émissions. Il y a des recherches qui ont montré que la culpabilité empêche l'espoir, diminue la santé physique et vide le corps de son énergie. Il est donc nécessaire de refuser la culpabilité et vraiment d'être prêt à rebondir.
On a identifié les caractéristiques de la résilience chez l'adulte?
Oui, c'est la présence de personnes concernées par le bien-être de l'enfant, puisque là j'évoque la résilience justement chez l'enfant. Donc c'est la présence de personnes concernées par le bien-être de l'enfant. L'enfant a besoin d'au moins une personne qui développe un attachement sécure. Cette personne fera preuve d'amour, de bienveillance, d'écoute, de patience, de respect, encouragera les efforts de l'enfant, facilitera l'expression pour qu'il puisse parler et deviendra un modèle positif de l'enfant. Ensuite, quelque part, il y a aussi rendre cet enfant actif pour guérir de ses blessures et il est essentiel de lui donner des occasions de se sentir utile, de le responsabiliser en agissant. Et cela renforcera son estime personnelle. Donc les encouragements dans l'effort, trouve une place de choix dans l'éducation bienveillante.
Donc en fait, le fait de trouver un sens à la souffrance, il soulage.
Oui, ça soulage. Le fait de trouver un sens à la souffrance soulage, c'est répondre au pourquoi. Rappelez-vous, la foi religieuse répond à ce besoin de sens. Après avoir vécu des traumas, quelque part, il faut que ça donne un sens pour rebondir, avoir peut-être aussi une mission de vie. La compassion, les personnes les plus résilientes sont celles qui ont fait preuve de plus de compassion envers les autres, et plus d'amour et de bienveillance, et le pardon, le fameux pardon.
Oui. Le fameux pardon. Alors, avant de développer justement le thème de la résilience, Quelles sont les aides et les méthodes ?
Alors, l'écoute active, bien sûr, que ce soit un parent, un ami, bien entendu, toutes les psychothérapies, la psychothérapie de l'hypnose ericksonienne, l'art-thérapie, la gestion des émotions, la pensée positive et l'écoute active qui est l'art d'écouter.
Et voilà, et nous allons, avec cet art d'écouter, aborder le thème de la résilience. Ça y est, nous y sommes.
Nous y sommes, enfin.
Merci Marie-Ange Couqui. Vous pouvez bien sûr podcaster cette chronique et la réécouter à volonté sur RCFM.